Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
Bonjour et bienvenue au balado Le Planif. Cette édition de votre magazine audio consacré à la planification financière reçoit deux invités. D'abord, l'économiste et conférencier Francis Gosselin, qui a vécu une expérience plutôt traumatisante avec les bureaux de crédit. Les agences Equifax et TransUnion desservent-elles bien les consommateurs canadiens? Notre deuxième invité est Mathieu Tessier, vice-président et gestionnaire de compte chez PIMCO. Il nous raconte pourquoi ce groupe californien est devenu un géant de la gestion active des obligations et quelles sont les perspectives pour cette catégorie d'investissement pour le reste de 2024 et 2025. Notre question du beau-frère provient de Linda de Lassar. Son beau-frère la pousse à investir dans l'or, mais surtout dans les minières. Est-ce une bonne suggestion? Enfin, notre capsule historique avec Isabelle Junot raconte la folle histoire du magnat du pétrole et milliardaire américain John Paul Getty. Le balado Le Planif débute à l'instant.
John Paul Getty, né le 15 décembre 1892 aux États-Unis, fut l'un des hommes les plus riches et les plus controversés du 20e siècle, bâtissant un empire pétrolier colossal qui a redéfini les paradigmes de la richesse et de l'entreprise. Issu d'une famille déjà engagée dans l'industrie pétrolière grâce à son père George Getty, un avocat devenu producteur de pétrole, John Paul Getty a montré très tôt un penchant pour les affaires et le pétrole. Diplômé de l'Université d'Oxford, il s'est lancé dans le secteur pétrolier avec une détermination féroce, exploitant les leçons apprises de son père et son éducation. Getty a fait preuve d'une acuité commerciale et d'un sens de l'investissement hors du commun, notamment lorsqu'il a acheté la Tidewater Oil Company et plus tard lorsqu'il a pris le risque calculé d'investir dans des champs pétrolifères du Moyen-Orient dans les années 1940. Une décision qui a finalement cimenté sa fortune et sa réputation. Ses paris audacieux sur le pétrole saoudien ont transformé Getty Oil en une des compagnies les plus rentables du monde, faisant de Getty un milliardaire. Getty était célèbre non seulement pour sa richesse, mais aussi pour son extrême frugalité, malgré son immense fortune.
Hello.
Il installa une cabine téléphonique à pièces dans son manoir anglais, Sutton Place, pour que les invités paient leurs appels, illustrant son approche économe et parfois avare de la gestion de ses biens personnels et professionnels. Sa vie personnelle était tout aussi complexe et mouvementée, marquée par 5 mariages et plusieurs enfants. Sa relation distante avec sa famille a été mise en évidence lors du célèbre enlèvement de son petit-fils, John Paul Getty III, en 1973. Getty a refusé de payer la rançon initialement, une décision qui a choqué le public. Ce n'est qu'après que les ravisseurs ont envoyé une preuve macabre de leur sérieux, une oreille de son petit-fils, que Getty a négocié la rançon et accepté de payer, mais seulement le montant qu'il pouvait déduire de ses impôts. En 2017, cette histoire devint un long-métrage réalisé par Ridley Scott, « Tout l'argent du monde », mettant en vedette Mark Wahlberg et Christopher Plummer. John Paul Getty est décédé le 6 juin 1976, laissant derrière lui un héritage complexe. Sa fortune a financé la création du J. Paul Getty Museum à Los Angeles, témoignant de sa passion pour l'art et son désir de léguer une partie de sa richesse à la société.
Planifiez mieux avec le balado Le Planif.
Notre invité, il est économiste, conférencier, également chroniqueur, on peut le lire dans le Journal de Montréal, on peut l'entendre à Cube Radio et également consultant, Francis Gosselin. Bonjour Francis.
Bonjour Fabien.
C'est la première fois, je suis très heureux de t'accueillir au balado Le Planif. Francis, je lisais que tu as une formation, en fait un doctorat en études économiques.
En économie, oui, que j'ai fait il y a maintenant plusieurs années à l'Université de Strasbourg en France. Mais j'avais fait mes études avant à bac et maîtrise à HEC Montréal ici. Je me suis exilé quelques années là, pour faire mes études d'économie là-bas. Puis je suis revenu ensuite, puis je suis consultant depuis là, une quinzaine d'années.
D'accord. Consultant, ça veut dire que tes mandats ressemblent à quoi?
Je fais essentiellement de la planification stratégique pour les PME. Donc, je travaille avec des entreprises là, qui sont généralement entre 20 et 150 personnes avec des chiffres d'affaires dans les quelques millions de dollars. Je suis un peu l'expert des premières planifications stratégiques, je te dirais, là. Beaucoup de clients m'approchent, ils ont subi, en fait, subi, ils ont vécu une bonne croissance et ils doivent un peu organiser leurs ressources humaines, leurs finances, leurs opérations, leur comité de direction. Et donc, je suis quelqu'un qui sait très bien faire ça là, pour en avoir fait près d'une centaine là, au cours des dernières années.
Alors, toi qui travailles en économie, en finance, les chiffres te parlent, comment on peut avoir un score, une note de crédit dans les bas-fonds entre les fraudeurs et les hackers? Parce que tu as vérifié ça récemment et selon ton institution financière, tu as un score au bureau de crédit qui est vraiment pas vergeux.
Non, ben, tu sais, je vais lever le voile un peu, parce qu'évidemment, dans le Journal de Montréal, on est limité à 500 mots, là. Donc, tu sais, grosso modo, moi, je suis aussi quelqu'un qui est hyper organisé du point de vue financier, là. Tu sais, j'ai plusieurs placements, je fais un peu d'immobilier, là. Tu sais, je suis vraiment très, très structuré. J'ai jamais raté un paiement de ma vie, là. Tu sais, fait que pour moi, justement, cette notion de score ou de réputation en matière de crédit est super importante. J'ai des comptes dans plusieurs institutions financières, la RBC, la Nationale, la Scotia, Desjardins. Tu sais, je suis quelqu'un d'assez sophistiqué. Je dirais en matière de finances. Fait que par-delà les études économiques, l'aspect, tu sais, finances personnelles m'intéresse et me plaît bien. Donc, Desjardins, là, qui est mon institution financière principale actuellement, offre depuis quelque temps sur accéder là, la possibilité de vérifier sa cote de crédit. Puis là, pour m'amuser, là, je me dis, tu sais, je vais aller voir, un peu me comparer là, tu sais, au reste de la planète Terre. Et c'est là où, effectivement, j'ai découvert que j'avais un score vraiment médiocre, là. Puis selon ce qui est présenté par TransUnion sur cette plateforme-là, je suis dans le bas 20% de leurs clients, là, tu sais, ils se situent par rapport à tout le monde. Et donc, tu sais, je comprenais pas. Puis là, on peut un peu lire le dossier de crédit. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait comme un compte. Là, tu sais, tous mes autres comptes sont au beau fixe, etc. Mais il y avait un compte où c'était inscrit que essentiellement j'avais comme pris un prêt de 1 522 $ que je n'avais jamais payé même, tu sais, un sou. Et donc, tu sais, de fil en aiguille, je me suis intéressé à ça, à essayer de comprendre d'où venait cette charge-là. Et j'ai été donc victime d'un vol d'identité. Quelqu'un a acheté un iPhone chez Virgin de cette valeur-là, et évidemment, est parti avec, n'a jamais payé. Et donc, tout ça pour dire que là, j'ai essayé de me battre avec Virgin, avec TransUnion, etc., puis rien n'y fait. Puis tu sais, encore aujourd'hui, là, on est fin mars 2024, j'ai encore un score de crédit terrible, tu sais.
Mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans des situations comme ça? Parce que tu te démènes d'abord trouver quelqu'un au téléphone. Impossible. Je sais qu'avec TransUnion, j'ai eu un problème similaire, de moindre importance, mais quand même, j'étais pas très satisfait de ma note de crédit pour m'apercevoir que à un moment donné, j'ai passé, moi aussi, j'ai pensé changer de fournisseur téléphonique et l'appareil, en fait, n'a jamais été activé. Mais il y a une facture qui a traîné qui n'a même jamais été envoyé. Et cette facture-là m'a fait un mauvais dossier de crédit. Autant le fournisseur de services téléphoniques s'est excusé que la mauvaise note n'a jamais été enlevée au dossier. Et autant qu'on réussit à avoir à l'autre bout quelqu'un qui dit oui, ça va être corrigé, mais ça se corrige pas. Et dans ton cas, est-ce qu'il y a une ultime étape où ça va pouvoir se corriger?
Ben là, j'ai juste, tu sais, mon chemin de croix, on pourrait dire. Il faut dire, tu sais, entre le moment où la personne achète le téléphone à ton nom, évidemment, ce jour-là, rien ne se passe. Je veux dire, si demain je dis, je m'appelle Fabien Major, j'aimerais emprunter 1 500 $, puis qu'on me croit, là, puis qu'on m'octroie ce crédit-là, ben entre le moment que je fais l'achat, tu peux bien skipper un paiement, un deuxième paiement, un troisième paiement. T'sais, avant que ça soit inscrit à TransUnion ou à Equifax, il va passer du temps. Et avant que tu t'en rendes compte, à moins d'avoir activé des alertes ou d'aller proactivement vérifier ton dossier de crédit, moi, dans mon cas, il s'est passé un an entre le moment où ça a été acheté puis le moment où j'ai constaté qu'effectivement, j'avais été victime d'un vol d'identité. Et là, donc, il s'est passé un an et maintenant, ça fait un an. Donc là, ça fait 2 ans parce que depuis un an, je me démène. J'ai appelé d'abord TransUnion pour dire, ben non, c'est une erreur. Il me dit, ah, appelez votre fournisseur, Virgin. Mais ce qui est particulier, Fabien, c'est que Virgin, ce n'est pas mon fournisseur. Tu comprends? Je n'ai aucune relation avec eux. Je vous dire, mon truc est avec Vidéotron. Fait que j'appelle chez Virgin, je m'appelle Francis Gosselin, je ne suis pas client, mais vous avez vendu en utilisant mes informations personnelles un téléphone à quelqu'un. Et là, ce qui est particulier, il ne retrouve pas le dossier. Tu comprends? Je ne sais pas à quel numéro de téléphone, je n'ai pas de numéro de compte, je n'ai jamais reçu de facture. Fait que là, je me démène dans Virgin. Finalement, quelqu'un retrouve mon dossier, ils me disent, on va explorer ça, on vous revient. Quelques jours plus tard, ils me reviennent et disent, ah, finalement, effectivement, vous avez été victime de fraude. Fait que je rappelle TransUnion. Bref, tout ça a duré un an de temps et TransUnion font des vérifications et à chaque fois me disent, ah non, tout est beau, on ne change rien. Et donc, j'ai fait cet article dans le Journal de Montréal, fast forward plusieurs mois plus tard. Et donc là, ce qui est drôle, c'est que mon institution financière, Desjardins, apparemment, a un service pour accompagner les gens qui sont dont l'identité est volée. Donc, j'ai été mis en charge avec une super avocate, là, tu sais, qui est très compétente, et son équipe. Et on a fait des appels. J'étais accompagné. Tu sais, j'ai pas besoin d'accompagnement, mais à ton avis, mais c'était quand même super d'avoir, tu sais, un avocat de haut calibre, là. J'ai été accompagné dans un appel avec TransUnion, puis un appel avec Equifax pour corriger. Et ce que j'ai découvert, Fabien, c'est qu'il y avait plein d'inexactitudes dans mon dossier. Des adresses où je n'ai jamais habité, des numéros de téléphone que je n'ai jamais eu, des emplois que je n'ai jamais. C'était le dossier, là, c'est comme un hodgepodge de genre d'informations glanées, je ne sais trop comment, mais qui ne sont pas les miennes. Et donc, ce qui me choque dans toute cette histoire-là, c'est que ces établissements-là, compagnies américaines en l'occurrence, qui se targuent de tenir des registres, des bases de données, tu sais, en cette ère, là, des données, là, tu sais, qui se targuent d'être les meilleurs au monde à garder des données, font un job terrible de garder des données sur moi, sur toi et sur tous les Canadiens. Et donc là, je me demande à quelque part, tu sais, who's holding these people accountable? T'sais, qui garde
Qui les surveille?
vérifie que ce travail-là est bien fait parce qu'il est fait de manière catastrophique. Et juste petite parenthèse, un des deux appels, je te dirai pas avec laquelle, a été comme l'appel le plus surréel que j'ai eu de ma vie parce qu'en plus d'être totalement erroné, ils embauchent un peu n'importe qui dans leur centre d'appel. Et donc, j'avais en face de moi, tu sais, j'étais accompagné par Desjardins dans un service privilégié pour les institutions financières et je recevais un service à la clientèle, mais comme tu peux pas t'imaginer comment c'était médiocre. Fait que, tu sais, je suis comme, à qui je porte plainte à un moment donné, là, je suis, tu sais, faut-tu que j'appelle Justin Trudeau, genre, tu sais, Antonio Guterres, là, tu
Au moins,
comme,
c'est son rendu à l'ONU.
jusqu'où il faut élever la chose pour que ces gens-là soient tenus à faire leur travail. Je trouve ça très choquant, honnêtement.
On revient à la base. Le Canada, là, c'est pas capitaliste pur, là. On peut dire que c'est socialiste, hein? Mettons.
On peut dire ça, ouais, mettons.
La donnée, en fait, la richesse la plus importante des Canadiens, c'est leur réputation. Puis avec ça vient aussi les données. TransUnion, j'ai compris en lisant ton papier que les autres aussi sont américains, je savais pour Equifax. Donc, nos deux bureaux de crédit, en plus de ne pas être des sociétés de la couronne, ce serait naturel, me semble. Non, c'est des groupes étrangers qui
Oui,
font
non,
ce qu'ils veulent
effectivement.
avec l'identité des citoyens d'un autre pays.
Le siège social de TransUnion est à Chicago, puis celui d'Equifax, je pense, à Atlanta. Évidemment, on dira que ce sont des subsidiaries, là, des filiales incorporées Canada, mais je dirais à la fin, tout ça est détenu par des intérêts étrangers. Et tout ça avec le copinage et l'assentiment, là, de l'autorité des marchés financiers, tout ça, là, tu sais, qui c'est pas comme, ils ne se sont pas implantés ici, là, comme des Russes, là. Ils ont eu, tu sais, le tampon de nos autorités publiques de gestion des marchés financiers. Pour dire, c'est les deux établissements qui vont vérifier les codes de crédit et cumuler des données sur les Canadiens sans
Ah,
aucun,
Francis,
manifestement, droit de
j'en
regard, là,
ajoute
tu
une couche.
sais. Ouais.
La formation, là. J'ai suivi les formations pour être conseiller en valeur mobilière, gestionnaire de portefeuille, patati patata. Les cours en ligne se donnent par CSI. C'est une société de Moody's. La formation des professionnels de la finance s'est octroyée à un groupe américain en exclusivité. Puis
C'est assez
là,
particulier.
ouais, c'est particulier, mais c'est ça. Est-ce qu'on est un pays de succursale, on se pose la question, mais avec les données, c'est tout à fait fâchant. C'est carrément la maison de fous dans Astérix que tu as vécu. Puis là, penses-tu que
Et
c'est lui?
ce n'est toujours pas réglé, là, soit dit
Non?
en passant. Donc là, j'ai pu faire supprimer des mauvaises adresses, des mauvais numéros de téléphone. Apparemment, il y avait la BMO qui faisait des vérifications sur ma personne, alors que je ne suis pas client à la BMO. Fait que je ne sais pas comme de quel droit ils enquêtaient. Et c'était dans les codes de crédit, tu as comme deux formes d'enquête. Tu as les enquêtes qui affectent le code de crédit, puis des enquêtes légères, là, des gens qui demandent des informations. Mais pour une raison que vous ignorez, la Banque de Montréal s'enquérait à mon sujet, au sujet de mon crédit, sans que je ne sois client. T'sais. Fait que c'est comme, évidemment, TransUnion et Equifax perçoivent de la rémunération pour toutes ces actions-là à partir de mes données qui sont fausses ou en tout cas partiellement erronées et pour lesquelles moi, évidemment, je ne perçois aucune rémunération. T'sais. Fait que c'est comme on dit pour les médias sociaux, si tu ne payes pas pour le service, c'est que c'est toi le produit qui est vendu. Puis moi, ça me choque énormément quand cette ère de loi 25, de GPRS en Europe, etc., qu'on n'ait aucun droit de regard, puis que même il me faille des années, puis un service hautement légal chez Desjardins, puis au terme de tout ça, j'ai même pas encore réussi à avoir gain de cause là, contre ces établissements-là.
Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aux consommateurs, aux gens qui nous écoutent par rapport à leur dossier de crédit?
I'm fighting the good fight, Fabien. Fait que, tu sais, je pense que c'est que des voix comme la mienne, tu sais, avec un article, puis quelques podcasts, puis quelques entrevues à la télé, mais je pense que si la grogne populaire... Tu sais, j'invite les gens à aller vérifier leur dossier de crédit, si c'est dans Desjardins ou ailleurs, mais je pense que la Banque Royale, plusieurs établissements offrent ça maintenant gratuitement là, dans votre compte en ligne. Vous allez vérifier votre code de crédit. Un, faites-le. Deux, s'il y a des inexactitudes, appelez, puis tu sais, limite jusqu'à appeler votre député. Là, tu comprends? Je pense qu'il y a vraiment une action politique qui doivent être prises parce que c'est politiquement inacceptable qu'on fasse vivre ça aux Québécois et aux Canadiens.
Il est clair, ça presse, qu'on ait une identité numérique avec des protections pour barrer carrément notre identité. Notre dossier de crédit devrait en faire partie. On voit des trucs, quand j'ai regardé le mien récemment, je voyais où est-ce que j'ai des ennuis aussi avec TransUnion, c'est que il y avait 6 comptes ouverts alors que j'ai 3 comptes ouverts. J'ai 2 cartes de crédit. Mais mes voitures ne sont plus, sont soldées, en fait,
Payés,
parce que j'ai payé tout ça. Puis je voyais qu'il y avait des comptes auprès de fabricants automobiles de véhicules que j'ai payés et remis il y a 7 ans, 8 ans, et on dit que le dossier est toujours actif, il est toujours ouvert. Et je dis que c'est pas vrai, je demande la correction, eux autres disent non, le manufacturier dit que c'est toujours ouvert. La dette est à zéro, de ce que ça paraît, mais ça coupe dans le pointage. Et assez qu'on voit qu'il faut demander absolument des quittances par écrit partout quand vous fermez du crédit. Autrement, ben, je pense que ça peut demeurer, hein.
Oui, ben donc il y a comme toute une hygiène là, du crédit là, à y avoir, là, évidemment. Puis tu sais, ça fait partie, je pense, de la littératie financière générale, mais dans le cas de particulier des agences, évidemment, de crédit. Puis tu sais, ce service-là que Desjardins m'a offert, je crois comprendre qu'il l'a offert à tous les clients Desjardins. Puis je devine que les autres institutions financières ont des services comme ça de protection de la vie privée de leurs clients. Fait que tu sais, si vous constatez des irrégularités, si vous êtes inquiet face à votre dossier de crédit, n'hésitez pas, tu sais, à faire appel à ça. Je sais qu'il y a même des entreprises privées, Fabien, qui m'ont contacté. Là, soit dit en passant, là, je les nomme pas,
Suite
mais
à ton papier.
qui offrent aussi des accompagnements. Là, il faut payer quelques centaines de dollars. Mais tu sais, à un moment donné, si tu es sur le point d'acheter une maison ou un véhicule, etc., puis tu sens que ta cote de crédit de manière injuste là, est trop basse, bien, ça peut valoir la peine de payer quelqu'un ou de faire affaire avec un service comme ça pour corriger la situation en espérant que la cote soit améliorée. Parce qu'évidemment, comme on ne l'a pas expliqué là, pour les gens qui nous écoutent, avoir une mauvaise cote de crédit, ça se reflète dans le taux qui va vous être chargé par l'institution financière et même ça pourrait vous amener à être refusé. Là, fait que
Dans
sur
mon
certains
domaine, on
prêts
va
vraiment.
refuser des candidats conseillers planificateurs qui veulent se joindre à l'équipe. S'il y a un mauvais dossier de crédit, too bad, on ne verra pas quelqu'un avec un
Exact.
mauvais dossier de crédit conseiller des gens, là.
Soit dit en passant, il y a des employeurs qui vérifient la cote de crédit, il y a des locataires. Fait que tu sais, c'est même pas juste d'acheter ou d'obtenir du crédit, là, c'est plusieurs situations de vie importantes. Tu sais, t'imagines, moi, là, me faire priver d'une opportunité d'être VP ou je sais pas quoi, parce que tu sais, c'est des coûts qui pourraient se traduire en coûts réels pour moi si cette situation-là n'est pas réglée. Puis tu sais, je me cite pas en exemple. Selon une étude que j'ai consultée, il y a à peu près 30% des personnes qui ont des dossiers de crédit qui y retrouve des erreurs. Fait que t'imagines une personne sur 3 à l'échelle canadienne, c'est 13 millions de dossiers qui sont un peu tout croche. C'est inacceptable pour moi.
Ouais. Mais une chose que je ne m'explique pas, il y a donc 2 sociétés américaines qui font ce travail-là de bâtir des dossiers de crédit sur notre dos. Les 2 sociétés n'ont pas la même méthodologie pour leur pointage et les 2 ne s'échangent pas les renseignements.
Non, effectivement, c'est aux gens qui octroient du crédit ou qui veulent faire des enquêtes de faire leur vérification. Puis ce qui est drôle dans mon histoire, soit dit en passant, Fabien, j'ai un score de 600, je sais plus, le 40 chez
600
TransUnion,
avec, t'avais
qui est
écrit.
dans le bas de 20 % et chez Equifax, j'ai 845 sur 850. Là, tu comprends? Puis je suis la même personne avec, tu sais, et parce que pour une raison que j'ignore, Virgin a comme soit pas déclaré ou ça a été ignoré ou
Et
peu
Virgin,
importe.
c'est belle, ça.
Ouais, mais la société où il y a un téléphone qui a été acheté là, a déclaré à l'un et pas à l'autre, ou en tout cas, l'un l'a considéré, l'autre l'a pas considéré. Mais donc, ce qui est très étrange, c'est que je suis à la fois dans le top 10% d'un bord et dans le bas 20% de l'autre, alors que je suis la même personne. Fait en termes méthodologiques, on revient à l'introduction, je suis un économiste, là, je suis quelqu'un qui fait de la science économique puis qui aime ça, regarder un peu des méthodologies comme ça. Comment c'est possible que la même personne qui est évaluée par deux compagnies qui ont en principe les mêmes informations, on arrive à is the worst and is the best. C'est comme pour moi, c'est complètement incohérent. Puis ça montre que ce système-là, c'est des clowns, ces gens-là. Là. Tu comprends au final, il n'y a aucune légitimité à ce
C'est des
système-là.
clowns, mais ils nous font pas rire, ils nous font damner. Hein.
Non, 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 c'est ça, clown dans le sens méthodologique, évidemment.
Merci Francis du temps accordé, puis je te souhaite bonne chance pour démêler cette situation-là qu'on souhaite à personne.
Je vais m'en sortir, Fabien, t'inquiète pas.
Balado, le planif, investissement.
Notre prochain invité est le vice-président gestionnaire de compte chez PIMCO, Pacific Investment Management Company. Si vous ne saviez pas ce que ça voulait dire, c'est bien ça, hein, PIMCO, Mathieu?
C'est bien ça, c'est bien ça.
Oui, enchanté. C'est le fun de te voir avec nous et puis de participer à une présentation publique. C'est vraiment bien intéressant parce que 2024, c'est peut-être... Je dis bien peut-être le retour des obligations en termes de rendement. C'est une promesse qu'on entend depuis peut-être un peu trop longtemps. Puis d'abord, avant de poursuivre avec les obligations, c'est qui PIMCO?
Ouais, ben pour ceux qui suivent la finance depuis un bon moment, les gens connaissent le nom PIMCO parce que on est un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Mais je dis souvent, on connaît PIMCO, mais on connaît pas PIMCO. Donc, pour faire une introduction 101, PIMCO, c'est une firme américaine privée qui est basée à Newport Beach en Californie. Pour ceux qui n'ont jamais visité Newport Beach en Californie, c'est un endroit paradisiaque dont j'ai eu la chance de faire mes études. Donc, je vous le conseille fortement. Donc, ça va faire 3 ans que je suis chez PIMCO et je vous dirais, il y a vraiment deux éléments qui distinguent la firme. Le premier élément, c'est la taille de la firme et c'est assez évident. Pourquoi? Parce que PIMCO gère 2 trilliards d'actifs sous gestion. Donc oui, le chiffre semble astronomique, mais ce qui est le plus important ou ce qui est le plus impressionnant, c'est que ce 2 trilliards-là, il est pratiquement seulement investi dans le marché obligataire. Donc, en d'autres mots, tout ce qu'on fait, c'est du revenu fixe. Donc, je vous dirais que c'est extrêmement important parce qu'au fil du temps, l'influence qu'on a eue au niveau du marché obligataire nous a permis de vraiment tisser des liens et créer des relations avec les 4000 banques aux États-Unis et les grandes banques au niveau mondial, et surtout, surtout, les banques centrales, notamment la Réserve fédérale.
Alors, avec PIMCO, ce sont des obligations. On peut vous expliquer qu'il ne s'agit pas du marché boursier. Ce n'est pas à la bourse. Comment s'échangent les obligations?
Oui, c'est une bonne question. Puis je pense qu'on va faire un petit segment en fin de présentation sur la gestion active versus la gestion passive. Donc, pourquoi payer un gestionnaire au niveau du revenu fixe? Bien, il y a des différences fondamentales au niveau des actions versus les obligations. Et la première, je vous dirais que c'est de la façon que ça se transige. Donc, les obligations se transigent de gré à gré et souvent, la plupart du temps, directement avec les émetteurs. Tandis que les actions se transigent.
Un émetteur, c'est une université, une ville, une province, un État,
un fonds de pension, un gouvernement, etc.
Mais des compagnies aussi.
Exactement, oui.
Dans le cas des compagnies, si ce ne sont pas des actions... Les obligations,
c'est la dette.
La dette. Alors,
c'est
les emprunts.
Exact.
Pourquoi je fais ce petit chemin-là? C'est quand on s'intéresse aux obligations, il y en a qui vont dire, allez acheter l'indice. Mais l'indice, si c'est représenté comme le S&P 500 en termes de capitalisation,
Les plus hauts, ce sont qui? Bien, c'est ceux qui ont plus de dettes. Donc, est-ce que, si on se pose la question, est-ce que c'est une bonne chose de voir des pondérations dans l'indice, de voir des compagnies qui sont le plus endettées? Ben, je pense que la question,
elle se répond toute seule.
Elle se répond toute seule, exactement.
Oui, oui, oui. Alors, on va regarder l'inflation qui a diminué, oui, mais résiste. Et vous étudiez l'inflation parce que ça a un lien direct avec la direction des taux d'intérêt.
Exactement. Puis je suis d'ailleurs très content que Ghislain ait passé juste avant moi parce que les perspectives sont quand même similaires. Donc, il n'y aura pas de confrontation après la présentation.
C'est dommage parce que vous êtes filmé.
Oui, non, c'est ça. C'est correct, merci. Écoutez, le contexte actuel, je pense que le titre de la présentation le résume quand même assez bien. Est-ce que c'est l'année des obligations? Je vous dirais que le contexte actuel est très favorable. Pourquoi? Parce que si on recule l'année passée, à la même date, on avait beaucoup de questions en suspens. On ne savait pas si l'inflation était sous contrôle. On ne savait pas si l'inflation était pour descendre rapidement. On ne savait pas combien de hausses de taux il restait dans le marché, s'il était pour avoir une pause, puis ensuite une baisse des obligations. On a eu une super belle année au niveau des portefeuilles, notamment le revenu mensuel, même avec beaucoup de volatilité là, dans le marché obligataire. Mais force est d'admettre que si on regarde aujourd'hui, à la même date, bien, on a un environnement qui est beaucoup plus favorable. Pourquoi? Parce que les banques centrales, notamment la Fed, ont changé un peu leur ton et ont un peu même, je vous dirais, télégraphié leur prochain, excusez-moi l'anglicisme, mais move. Donc,
oui, moi, c'est la première fois que j'entends dire « on va baisser trois fois ».
Exact. Le problème, par contre, où je dirais où c'est important de gérer nos attentes, c'est que, puis c'est ce que PIMCO pense, c'est oui, il va y avoir des baisses de taux d'intérêt, mais est-ce que, si on regarde au 1er janvier 2024, est-ce qu'au Canada et aux États-Unis, 6 baisses de taux d'intérêt, ça fait du sens ou c'est réaliste. Donc, ce que nous, on pense en ce moment, c'est que le marché est un petit peu trop optimiste sur la quantité de baisses de taux, mais on pense tout de même qu'il va en avoir des baisses de taux. Est-ce que ça va être au mois de mars? On ne pense pas. Nous, on pense que ça va être plus à la mi-année. Mais de façon générale, le contexte est plus favorable qu'il l'était l'année passée à la même date.
Gentiment, là, le marché a un petit peu d'hallucination. Et puis, vous êtes plus réaliste.
Ben, on est toujours pessimiste parce qu'on gère de la dette de toute façon. Donc, évidemment, parce que si on regarde l'économie en ce moment, si on regarde plutôt l'inflation, il y a une déflation au niveau des biens. Donc, je pense à certains facteurs qui influencent comme... Justin en parlait tantôt, la situation économique de la Chine. Nous, on dit beaucoup à l'interne que PIMCO importe la déflation. Donc, et c'est vrai. Où on tarde à voir du progrès, c'est vraiment au niveau du marché de l'emploi. Et on l'a vu dans les derniers chiffres d'emploi, il y a des facteurs dont les niveaux records d'immigration qui sont, eux, soutenus par certains conflits géopolitiques. Je pense notamment à la guerre en Ukraine. Il y a aussi des facteurs comme, je vous dirais, un changement de philosophie au niveau de l'embauche aux États-Unis. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est que les compagnies aux États-Unis embauchent plus de monde, mais à temps partiel. Donc, ça vient un peu biaiser le calcul de la création d'emplois. Puis, on l'a vu dans le dernier rapport, vendredi dernier, 175 000 emploi de créer de plus que le consensus additionné à une révision à la hausse du dernier mois. C'est assez
impressionnant. 355 000 emplois créés.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une forte réaction du marché, parce que le marché ne s'attendait pas à ça, parce que le marché avait un petit peu les lunettes roses au niveau de la quantité de baisse de taux d'intérêt qu'on attendait pour l'année 2024.
C'est comme si on est dans la douche, bien confortable, l'eau chaude, puis à un moment donné, notre fils dans le sous-sol, il joue avec le lavabo, puis là, ouf!
Il arrive avec son idée de cold plunge, comme c'est super populaire.
Regardons un petit peu pourquoi la gestion active avec les obligations. La gestion active dans le cas des actions, ici, c'est la dernière statistique de Morningstar de la dernière décennie. En tout et partout, si on prend un mélange très large, à peu près 28 % des gestionnaires actifs surpasse le marché. On va dire que ce n'est pas beaucoup, mais quand on travaille avec la recherche, avec des entreprises qui étudient à fond chaque entreprise, ben, on va aller se positionner surtout du côté des 28. Mais en ce qui concerne les obligations, ben là, au niveau mondial, je vois dans la recherche de Morningstar, 94 % des gestionnaires actifs surpassent l'indice. Comment on peut expliquer?
Ben écoutez, je suis très content parce que la majorité des mandats de PIMCO, c'est des obligations mondiales, donc les statistiques sont éloquentes. Mais je vous dirais que les gestionnaires actifs au niveau du revenu fixe ont plus de facilité, entre guillemets, à surperformer leurs indices pour quatre raisons. Et c'est souvent lié à la structure de l'indice sous-jacent. La première raison, c'est que les obligations, contrairement aux actions, ont une maturité. Donc, on me redonne mon 100 $
Ça se termine.
Ça se termine, exact. Ouais. Non, on n'a pas une durée de vie éternelle, contrairement aux actions qui sont, entre guillemets, perpétuelles. La deuxième variable ou le deuxième élément, c'est que les obligations ont ce qu'on appelle un risque de durée. Donc, un risque de durée à ne pas confondre avec la maturité de l'obligation, c'est une mesure de sensibilité au mouvement de taux d'intérêt. Donc, je vous donne un exemple, puis on l'a vu dans les dernières années. Lorsqu'un gestionnaire pense que les taux vont monter, donc ce qu'on veut, c'est avoir une durée un petit peu plus courte. À l'inverse, si on pense que les taux vont descendre, on veut une durée qui est un peu plus longue. Donc, les gestionnaires qui ont la capacité...
On amplifie la sensibilité parce que ça va être positif.
Exactement, exactement. Règle générale, si on a une durée de 8 ans dans notre portefeuille et les taux augmentent de 1 %, ben, notre portefeuille, puis on l'a vu en 2022 pour certaines obligations, portefeuille affiche une performance négative de 8 %, toutes choses étant égales. À l'inverse, si on a une durée de 8 ans, OK, et les taux descendent de 1 %, bien, on profite de cette baisse-là et le portefeuille va être, toutes choses étant égales, encore une fois, positif de 8 %. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la fréquence des émissions. On en a parlé tantôt avec Fabien. Si on regarde le marché obligataire, 15 % du marché obligataire chaque année, ça représente des nouvelles émissions. Contrairement aux actions, où on parle d'environ 0,4 %.
Ah, si peu.
Exactement. Donc, le résultat final de ça, c'est que si on regarde les deux indices populaires en actions puis en obligations, ben, le S&P 500, que vous connaissez tous bien, a 500 quelques titres. C'est 503, je crois.
Ouais, ben avec Google qui a comme Alphabet.
Exact.
En deux versions.
Et l'indice le plus populaire, qui est le US Ag, au niveau du marché obligataire, a 12 500 titres.
Oh!
Donc, encore une fois, les gestionnaires qui sont actifs et qui ont l'expertise au niveau du marché obligataire, comme PIMCO, c'est plus facile pour eux d'aller, en termes de playground, comme on dit en français, d'aller piger dans les obligations.
Mais c'est quoi une obligation intéressante dans l'eau des 12 000? Quelles sont les caractéristiques qui disent que je devrais prendre celle-ci plutôt qu'une autre?
Mais PIMCO, je vous dirais, est passé maître de par les 300 quelques gestionnaires de portefeuille qui travaillent pour nous, est passé maître dans ce que j'appelle communément le pouvoir du relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à travers des cycles économiques ou des cycles de crédit, il y a certains temps où des obligations gouvernementales vont être plus attrayantes que des obligations corporatives. On peut débattre en ce moment que des obligations gouvernementales ou quasi-gouvernementales, donc les hypothèques américaines, qui sont une grosse partie de l'investissement chez PIMCO, sont peut-être un peu plus attrayants que le crédit, ce qu'on appelle le crédit corporatif. Donc, une obligation qui est émise par une corporation, qui sont naturellement un peu plus sensibles au mouvement économique. Donc, c'est débattable de dire, est-ce qu'on s'en va en récession, oui ou non. Mais en ce moment, on pense que les obligations qui sont gouvernementales et quasi-gouvernementales sont un peu plus attrayantes en termes de rendement juste au risque.
Et tu as mentionné que le marché, donc, on émet de nouvelles obligations, peut-être 15 % par année. Ce 15 %-là, est-ce que le public y a accès?
Écoutez, pour répondre à la question, est-ce qu'on doit payer un gestionnaire actif? Ben, je pense que c'est probablement l'élément le plus important. Quand je disais d'entrée de jeu que PIMCO a une influence majeure sur le marché obligataire, ben, on l'a vu dans la dernière année et demie. Pourquoi? Parce que la Réserve fédérale et les 4100 quelques banques américaines sont dans une politique, ce qu'on appelle une politique monétaire restrictive. Donc, on diminue notre bilan financier, c'est-à-dire qu'on enlève la liquidité dans le marché. Et des firmes qui ont un pouvoir d'achat, comme PIMCO, avec 2 trilliards d'actifs sous gestion, seulement dans le marché obligataire, sont capables de bénéficier lorsqu'on achète en fort, fort volume, d'escomptes sur des gros, gros achats auprès de, que ce soit des corporations, des gouvernements, des banques centrales.
C'est ce qui fait qu'il y a des obligations qui s'en vont directement dans l'institutionnel, mais que le public n'a pas accès, même avec son conseiller à la bourse. On l'appelle, on lui dit « achète-moi telle obligation, j'ai entendu dire que ça s'en venait, puis il n'y en a plus ».
Exactement, exactement. Donc, c'est au final... Lorsqu'on regarde les portefeuilles à l'interne, on voit que les gestionnaires d'actifs à qualité de crédit égale ont toujours accès à des obligations qui nous payent un petit peu plus que des obligations normales qui seraient achetées par exemple, les courtiers en valeur mobilière, ces choses-là.
Dans le graphique qu'on présente actuellement, ce n'est pas l'évolution d'un portefeuille d'obligations, mais c'est plutôt l'évolution de du rendement à maturité.
Exact. Cette slide-là, depuis 2 ans, c'est ma slide favorite. Pourquoi? Parce que on a eu un contexte en 2022 où il y a eu des hausses de taux d'intérêt très, très rapide. Donc, on regarde sur le taux directeur, on parle au-dessus de 5 %. Donc, c'est sûr qu'à court terme, les obligations en ont souffert. Par contre, si on regarde le point d'entrée à la fin 2022, début 2023, ben, c'est sûr que ce que ça le fait, même si on a eu une performance qui était à la baisse, on a pu bénéficier aux gestionnaires de nouvelles obligations qui nous payent beaucoup plus que les années d'avant. Donc, c'est un peu l'équivalent, quand je parle de point d'entrée, que d'investir dans un mandat d'action au creux. Mais c'est un peu la même chose. Donc, on voit dans le passé que, au niveau de ce graphique, il y a eu des événements où il y a eu des séquences où on a vu un contexte similaire. Donc, les taux ont augmenté rapidement, il y a eu une pression à la baisse sur les prix et les investisseurs qui ont su être un peu avant-gardistes, là, je dirais, mais qui ont su investir au creux dans le revenu mensuel, qui est notre fonds le tout étoile, je vous dirais, ont toujours été récompensés.
Alors, on va identifier les périodes qui peuvent s'apparenter. Il y a la dette grecque et d'autres pays d'Europe. Ça, c'est en 2010-2011 surtout. Mm-hmm. En 2013, c'est les assouplissements quantitatifs, on appelle ça taper tantrum, où les gouvernements rachetaient de leurs propres dettes émises, leurs obligations. L'augmentation des taux d'intérêt en 2018, la COVID-19 et en 2022, l'augmentation spectaculaire de l'inflation. En quoi ça nous importe ces événements-là?
Mais c'est que quand on investit au creux dans ces périodes-là, quand on a investi au creux dans ces périodes-là, on a pu bénéficier de ce qu'on appelle un rendement à l'échéance. Donc, si on fait un peu une moyenne pondérée de ce que les obligations nous payent dans le portefeuille à ces moments-là, ben nous, à l'interne, ce qu'on dit, c'est que c'est le meilleur indicateur de performance pour un fonds de revenu fixe. Donc, les gens qui ont investi au creux dans ces périodes-là, si on regarde les rendements 1 an, 3 ans, 5 ans, mais ont tous été récompensés.
Ouais, ouais. Notamment en Europe. La crise de la dette européenne, un an plus tard, 16 %. Assouplissement quantitatif, 2013, c'est 12,5, 7,27 avec des augmentations de taux d'intérêt en 2018. La COVID, 18, c'est vrai, 18,65?
Oui.
Et puis le dernier, ben, il y a déjà un an plus tard, c'est 5.10 jusqu'à maintenant. Et puis le cycle de ce côté-là, ben, il est commencé. Là.
Ben, puis on n'a pas besoin d'aller trop, trop loin. On regarde juste l'année 2023. Au 1er janvier, le rendement à l'échéance du revenu mensuel était 7,93 %. Et la performance pour 2023, net de frais, a été de 7,91 %. Donc, quand on dit que c'est le meilleur indicateur de performance de revenu fixe, on a eu un exemple parfait l'année passée, puis évidemment, on l'a eu au niveau des dernières années.
Merci beaucoup, Mathieu.
Ça fait plaisir.
On comprend beaucoup mieux les obligations.
Merci.
Mathieu Tessier de PIMCO.
La question du beau-frère cette semaine provient de Linda de Lassard. Linda a un beau-frère qui n'arrête pas de l'achaler et tente de la convaincre d'investir dans l'or. La semaine précédente, c'était pour le Bitcoin et là, c'est l'or. Faut dire que l'or a énormément monté et a franchi une valeur de près de 2 300 $ US l'once. C'est un sommet historique. L'once d'or a gagné plus de 10 % depuis janvier et près de 32 % depuis 3 ans. C'est moindre que les marchés boursiers, mais tout de même très intéressant. Et que répond donc à Linda qui a un beau-frère qui lui demande pourquoi elle n'investit pas dans les minières? Lui souhaite que Linda, puisque au Québec on a de belles grandes minières, pourquoi elle n'investit pas dans les minières? Alors à ce sujet, je dois quand même apporter une précision à Linda. Investir dans les minières, ce n'est pas investir dans l'or proprement dit. Je comprends que c'est de plus en plus un placement. Si on regarde toute la demande dans le monde, 24 % sert d'investissement. On peut acheter des lingots, mais c'est assez coûteux à entreposer en frais de transaction en raison du poids, bien sûr, la sécurité, la valeur. Et de plus en plus, on l'achète et on l'intègre dans un portefeuille d'investissement via des FNB. Il y a le XGD de iShares, le ratio de frais de gestion est à 0,61%, ou le KILO, K-I-L-O, The Purpose, c'est le Gold Bullion, son ratio est plus élevé à 0,78. Mais il y a aussi les RTB, ce sont des reçus de transactions boursières de la monnaie royale canadienne qui se négocient à la Bourse de Toronto sous l'acronyme MNT, M comme monnaie, NT.T. Selon moi, c'est un des moyens les plus économiques et sécuritaires d'investir dans l'or à faible frais. 5 % peut-être du portefeuille, ça dépend de votre niveau de risque. Le ratio de frais est de 0,35 % et ça couvre essentiellement l'entreposage dans les voûtes de cette société de la couronne. Donc, ce n'est pas un organisme qui vise une grande profitabilité. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est rendre justement ce bien plus accessible. Petite mise en garde pour Linda et son beau-frère. Lorsque vous investissez dans des mines d'or directement ou via un FNB comme le Sprott Gold Miners, le SPGM, vous n'investissez pas dans l'or, mais dans la recherche et l'exploitation d'une société minière qui a ses coûts d'administration, ses salaires, son personnel, ses travailleurs, des fois des syndicats aussi, et toutes sortes de parties prenantes. Au Canada, il y a Agnico Eagle, Barrick Gold, Newmont, Franco-Nevada parmi les plus connus. Alors, les rendements qu'on obtient, ils peuvent être bien différents de ce que l'once d'or rapporte. Ça, c'est à, justement peut-être envoyer à votre beau-frère parce que mine d'or ne dit pas nécessairement rendement de l'or. Par exemple, depuis 3 ans, ce FNB dans les minières appauvrit ses porteurs de parts de moins 1,4 par année, tandis que l'or a progressé de 9,2 % annuellement. Cette édition se termine là-dessus. Merci à nos invités, l'économiste Francis Gosselin et Mathieu Tessier de PIMCO. Écrivez à fm@fabienmajor.com pour vos suggestions de thèmes et d'invités et vos questions du beau-frère. Elles sont toujours appréciées. Ici Fabien Major. À bientôt.